Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwar et c'est l'heure de l'interview avec au studio aujourd'hui Claire Lecouteux, bonjour.
Bonjour.
Et Vincent N, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour Yves.
Vous êtes ici, vous, en tant qu'accompagnateur et nous annoncez aussi la saison d'hiver 2025 de Vercors Escapade, cette association située certainement aux abords du Vercors, vous nous préciserez où d'ailleurs, et peut-être même je pourrais vous demander tout simplement qu'est-ce que Vercors Escapade ?
Vercors Escapade, c'est une petite agence de randonnée, donc pas vraiment une agence de voyage, c'est une agence de randonnée, donc notre cœur de métier, c'est vraiment d'amener des gens dans la montagne, essentiellement dans le Vercors, hein, comme son nom l'indique, et comme on est situé ici à Die, mais aussi à d'autres endroits. Donc au fil de l'année, on a des activités qui sont potentiellement très différentes. On a vraiment une activité tout au long de l'année, les 4 saisons. Donc là, on arrive sur l'hiver, on va aller faire des raquettes, on va aller... faire des séjours dans la neige, tant qu'il y en a. Et là, c'est chouette, il y en a en ce moment. Donc, on se réjouit de tout ça. Et puis, au printemps, on va faire des choses un petit peu plus dans l'entre-deux qui est entre le Diwa, entre les hauts plateaux du Vercors et tout ça. Et puis en été, on va aller faire des randonnées plus à pied, avec les ânes, on va aller faire des bivouacs, on va aller dormir dans la nature et toutes ces choses-là. Voilà, et on est entre 10 et 15 accompagnateurs selon les estimations des syndicats ou de la police, ça dépend, qui tournons un petit peu autour de cette structure.
Ouais. Il y a des partenariats, justement, là, au niveau de ces activités également, quand vous vous lancez sur des randonnées. Est-ce qu'il y a des points de rencontre qui s'organisent ou qui permettent aussi de faire connaître divers aspects du Vercors ?
Alors, des partenariats, en fait, on en a plein avec... alors, on travaille beaucoup avec d'autres agences aussi, puisque nous, notre spécificité, c'est le Vercors. Mais nos clients, ils n'ont pas forcément envie de faire que du Vercors. Donc on va avoir des accords d'échange un petit peu avec d'autres agences, en Chartreuse, dans le Kera ou ces choses-là. Donc ça, c'est plutôt des accords avec des agences qui nous envoient des clients et à qui on envoie des clients. On va travailler avec des hébergeurs hein, sur le territoire. Parce que quand on fait des séjours, et ben voilà, on va être accueilli chez l'un ou chez l'autre, que des hôtels, des refuges, des gîtes, selon les moments. Et puis on travaille beaucoup aussi avec les institutionnels. Donc on travaille beaucoup avec la réserve des hauts plateaux du Vercors, par exemple, qui est cet espace absolument merveilleux qui est juste au-dessus de Die, là, qui est un espace de jeu ou de travail selon. Pour nous, qui est absolument formidable. Donc, on bosse beaucoup avec les gardes de cette réserve. On travaille aussi avec le parc du Vercors de façon générale sur différentes thématiques, sur des problématiques de changement climatique, sur des problématiques de loups et de soucis avec les activités pastorales, par exemple. Donc, ça, voilà, c'est un petit peu plus institutionnel, quoi, on va dire.
Il y a cet aspect donc de découvrir un peu ce paysage, ce site, un peu l'histoire aussi, certainement. Ça s'adresse à quel public et quels sont les publics que vous accueillez ? J'imagine que ce soit de l'enfance aux adultes. Et pour ça, est-ce qu'il y a des activités qui sont en quelque sorte en harmonie avec ce public ?
On accueille à peu près tous les types de publics, donc que ce soit adultes, enfants, les familles, notamment l'été avec les ânes. Le public famille est très friand de ces randonnées. Et on peut également accueillir du public scolaire, notamment sur des sorties l'hiver en raquette. Donc voilà, ça s'adresse à tous les types de publics, quel que soit le niveau de randonnée, il n'y a pas vraiment de niveau minimum requis. Donc voilà, tout le monde est bienvenu pour pouvoir profiter des connaissances que vont pouvoir vous apporter un accompagnateur en montagne, en randonnée.
Par rapport à votre formation, qu'est-ce qu'elle permet aussi au niveau de vos fonctions? Est-ce qu'il y a diverses manières d'être accompagnateur avec divers niveaux de difficultés peut-être ou avec des publics plus spécifiques?
Alors, ce qu'on appelle le métier d'accompagnateur en montagne, ça correspond à un diplôme, qui est un diplôme d'État d'accompagnateur moyenne montagne, pour être précis, qui est dans la même filière des diplômes que le guide de haute montagne. Et ce qui va faire la différence entre l'accompagnateur moyenne montagne et le guide de haute montagne, ça va être la technicité. C'est-à-dire que le guide va aller sur des terrains où il a besoin d'avoir des techniques spécifique. Il va utiliser un piolet, il va utiliser des crampons, il va utiliser des skis, il va utiliser une corde. La différence, nous, notre moyenne montagne, c'est une montagne dans laquelle on peut aller avec juste nos chaussures, en gros. Alors nos chaussures, évidemment, on va prendre un sac à dos, on va prendre plein d'autres choses, mais il n'y a pas de technicité. On va jamais aller sur des endroits où il y a besoin d'avoir une corde, où il y a besoin d'avoir un casque, où il y a besoin d'avoir un piolet ou des crampons. Ça, c'est notre terrain de jeu, entre guillemets, là où on est compétent et où on a le droit d'aller. Et pour passer ce diplôme, en fait, c'est... Alors certains diraient que c'est un parcours du combattant. C'est une formation qui est assez conséquente, qui va être entre 3, 4, 5 ans pour certains. Alors pas forcément à temps plein, c'est généralement des formations pour des personnes qui ont déjà un passé, une expérience professionnelle, qui n'arrivent pas juste à la sortie de leur bac, quoi. Même si dans l'absolu c'est possible, et où on va apprendre en fait à le milieu montagnard, qu'est-ce qu'il est. Alors à la fois, comme tu disais tout à l'heure, Yves, à juste titre, il y a de l'histoire, il y a du patrimoine, il y a de l'architecture. Alors ça c'est une dimension. On va avoir une dimension flore, une dimension faune, et puis on va avoir surtout, moi j'ai l'impression, ce qui caractérise vraiment notre métier, c'est de la capacité à mélanger tout ça. Hein, la notion d'écologie, alors pas écologie au sens politique, mais écologie bien au sens scientifique, c'est bien comment est-ce que tout ça vit ensemble? Comment est-ce que, pourquoi est-ce qu'un renard vit à tel endroit? Parce qu'il est dans une forêt, mais la forêt elle est là parce que potentiellement il y a un certain milieu géologique. Et puis ben, on va aussi trouver justement des humains à tel endroit. Parce que, donc, des humains, des constructions humaines, des anciennes constructions humaines qui ont été abandonnées. Hein, on trouve sur le Vercors, par exemple, des premières traces de pastoralisme qui datent presque de la préhistoire, enfin, d'il y a plusieurs milliers d'années. Alors, ils n'avaient pas des grosses constructions, ils n'avaient pas des grosses poutres, c'était juste des amas de pierres pour se protéger un petit peu. Donc, la formation d'accompagnateur, voilà, c'est plein de dimensions et surtout le ciment qui permet de comprendre la montagne. Et puis, à côté de ce contenu, c'est-à-dire ce qu'on va transmettre aux clients et aux gens qui viennent nous accompagner dans les randonnées, il va y avoir une dimension de sécurité. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est évidemment d'amener des gens dans la nature, dans ces milieux de moyenne montagne, de leur amener plein de connaissances, et puis, évidemment, de faire tout ça en sécurité. C'est-à-dire, on va essayer de ne pas se perdre, on va essayer de ne pas tomber en hypothermie en hiver, on va essayer de ne pas se casser la figure en été ou en hiver. Donc il y a toute cette dimension de sécurité qui est très importante dans la formation et dont on est très content quand elle n'est pas visible finalement dans nos sorties. C'est-à-dire que c'est vraiment la partie cachée de l'iceberg, c'est le back-office, c'est toute la préparation en amont, c'est tout ce que les clients ne voient pas. Et dont il est fondamental que nous, on ait bien géré les choses pour que justement, il n'y ait pas un accident ou même un incident qui survienne. Et puis, dernier pan de cette formation des accompagnateurs, c'est le volet humain. C'est-à-dire, c'est comment est-ce qu'on fait pour conduire un groupe en sécurité et leur amener plein de connaissances? Comment est-ce qu'on fait pour transmettre des choses? C'est-à-dire qu'on a un petit côté psychologue quand même, on a un petit côté prof ou instituteur, ça dépend des personnes et des publics vers lesquels on se tourne. C'est un petit peu tout ça, être capable de transmettre des choses, avoir ses connaissances, et puis être capable de gérer la dimension de sécurité.
On va peut-être aborder aussi vos propositions pour cette saison d'hiver, à commencer par les randonnées, ça c'est certain. Uniquement de la randonnée ou est-ce qu'il y a peut-être des à côté que vous proposez également ?
On est essentiellement sur de la randonnée, hein. Donc oui, donc ça peut être randonnée pédestre l'été, et puis donc l'hiver c'est randonnée à raquettes. Donc nous, cet hiver, pour les vacances d'hiver 2025, on va proposer un programme de randonnée à la journée en raquette pour, pareil, pour tous les niveaux, pour tous les publics. Et donc on va avoir des journées entières pour plus l'initiation, la découverte de la marche en raquette, des journées un petit peu plus sportives. Où là, on va peut-être arpenter un petit peu les hauts plateaux du Vercors et la réserve naturelle sur des itinéraires un petit peu plus longs, un peu plus sportifs, un peu plus sauvages. Et on aura également des sorties où on va essayer d'apprendre à gérer les conditions hivernales en montagne. Donc pour les personnes qui ont peur de partir seules en hiver en montagne, comprendre ce que ça représente de gérer le froid et le chaud au cours d'une sortie, comment on va préparer son sac, comment on va s'orienter sur le terrain, que ce soit avec une carte ou avec son téléphone. Et puis, ce qui est fantastique aussi l'hiver en montagne, c'est de voir toutes les traces et les indices de vie qu'on peut voir dans la neige toute la faune qui habite cette montagne.
C'est ce que souhaite le public, c'est d'aller à la rencontre de cet aspect de la nature, avec ses êtres, sa faune, sa flore.
Oui, je pense que les gens qui partent en montagne, et notamment en hiver, ils sont à la recherche un petit peu de ce contact avec la nature et puis de savoir ce que ça recouvre, comment les animaux s'adaptent au froid, voilà, quels sont leurs habitats, essayer de comprendre quel type de traces on va trouver au sol, ce que ça représente, leur mode de déplacement. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont d'autant plus intéressantes en hiver grâce à la neige. Donc, c'est pour ça qu'on propose ce programme de raquettes à la journée.
Cette neige est toujours aussi présente depuis le début de Vercors Escapade ou alors des fois, elle est un petit peu désirée ?
Vercors Escapade commence à être un petit peu vieux. Alors, c'est pas si vieux que ça, ça a une vingtaine d'années, donc c'est pas énorme. Mais effectivement, en 20 ans, on a vu clairement l'impact très, 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 très important du changement climatique. C'est-à-dire que maintenant, les hivers, on le constate tous. Hein, c'est-à-dire qu'à Die, donc on est à 450 mètres d'altitude, on n'a quasiment jamais de neige. On va avoir peut-être une chute de neige dans l'année, et puis ça fond tout de suite. Alors que dans le temps, il y a 20 ans, hein, pas il y a 50 ans, ou, enfin encore plus. Et du coup, au niveau de la montagne, c'est-à-dire dans des altitudes un petit peu plus élevées, oui, effectivement, on voit des conditions d'enneigement qui sont très différentes. Alors, ce qu'on observe là en termes de changement climatique, c'est effectivement moins de chutes de neige et surtout un enneigement continu sur l'hiver qui est très différent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps, il y a 20 ou 30 ans, on avait de la neige grosso modo du 1er novembre jusque potentiellement des dernières chutes de neige au mois d'avril. Là, on reste dans ces conditions-là, c'est-à-dire qu'on peut avoir des chutes de neige début novembre, c'est ce qu'on a eu. Hein. Je crois que le 10 novembre ou le 11 novembre, on a eu une première petite chute de neige. On en aura peut-être encore au mois d'avril, enfin en 2024 il y avait de la neige au mois d'avril, mais entre-temps la neige elle fond, c'est-à-dire qu'on est sur notre moyenne montagne, hein, donc des altitudes qui sont entre 1300 et 2000 mètres on va dire, ça c'est les altitudes qui sont juste autour de l'isotherme 0 degré. Hein. Donc l'isotherme 0 degré, il faut s'imaginer que plus on monte en altitude, plus la température va être basse. C'est-à-dire que quand on est ici, ce matin, par exemple, je ne sais pas, il fait 5-6 degrés à 10, bah, si on va monter grosso modo au col du Rousset, bah, on ne devrait pas être très loin de 0 degré. Puis si on monte encore au-dessus, on va arriver à ces 0 degrés. Et évidemment, la pluie qui tombe aujourd'hui à 10, eh ben, si on monte en altitude, donc peut-être qu'au col du Rousset, alors là on ne voit pas tout à fait depuis les bureaux de Radio Diwa, mais peut-être que ça commence à être suffisamment froid pour que cette pluie qui tombe sur Die, ben, ça soit de la neige en altitude. Et plus on va monter, plus évidemment on a des chances que ça soit de la neige. Donc ben, comme on est tout le temps avec cette limite pluie-neige qui a tendance à monter en altitude. Si on a des épisodes où on a de la pluie à 2000 et avec un isotherme 0 degré, donc une limite pluie-neige à 2000 mètres d'altitude, bah ça veut dire que toute la neige qui est tombée par exemple il y a 15 jours, elle va être lessivée par cette eau chaude, entre guillemets, alors qui est peut-être chaude à 3-4 degrés, hein, mais qui va faire fondre la neige. Donc là, vraiment, oui, on observe le fait qu'il y a un changement climatique qui est en jeu, contrairement à ce que certains auraient envie de dire. Et il faut qu'on fasse avec. Alors nous, clairement, notre solution, ou en tout cas notre force peut-être, c'est que s'il n'y a pas de neige, on peut faire de la randonnée aussi. Alors on n'est pas obligé de prendre des raquettes. Et du coup, ça nous est arrivé effectivement de faire des randonnées au mois de février, à certaines années, où on n'a vraiment plus assez de neige et on n'a pas besoin des raquettes. Et du coup, ça va... Par opposition, notamment aux stations de ski, les stations de ski, on est très localisé, tout le monde est au même endroit, donc le peu de neige, on va éventuellement l'enlever par des passages répétés. Nous, on va aller chercher les endroits où il y a un petit peu de neige, et puis le jour où il n'y a pas de neige, c'est pas grave, on peut randonner quand même, quoi.
Voilà, donc vous opérez une alternative à ce manque de neige dans vos propositions. Donc est-ce qu'il y a justement des perspectives dans ce domaine? Est-ce que vous allez vous devoir peut-être adapter vos activités avec ce phénomène?
La chance qu'on a en tant qu'accompagnateur en montagne, c'est que on peut s'adapter nous assez facilement au manque de neige, puisqu'on n'est pas obligé de randonner avec... des raquettes. On n'est pas obligé de mettre nos raquettes aux pieds. On peut juste marcher avec nos pieds, avec les bonnes chaussures. Et on fait de la randonnée comme on fait de la randonnée en été. Ça se fait pareil en hiver.
Les activités proposées pendant cette saison sont de l'ordre du quotidien ou quelles sont les fréquences de propositions au public?
Alors pour cet hiver 2025, on va proposer donc un programme avec des sorties presque tous les jours à partir du 1er février, donc vraiment pour les vacances d'hiver. Et il y aura des sorties le mardi, le mercredi, le vendredi, le jeudi, le samedi. Voilà, on vous invite à aller voir l'ensemble des sorties qu'on propose en raquette sur le site internet, donc c'est www.accompagnateur-drome-vercors.fr. Et là, vous pourrez voir l'ensemble des randonnées en raquette que l'on propose avec les jours proposés notamment.
On a quasiment effectivement une activité sur tous les jours. On est comme sur ce territoire de moyenne montagne, on est aussi à cheval entre deux types de secteurs. C'est-à-dire qu'on va chercher à toucher les gens qui habitent à Die, donc nos concitoyens là ici, qui ont plutôt envie de partir le mercredi avec leurs enfants, de monter au col du Rousset, de profiter de la neige. Mais on va aussi trouver des gens qui viennent peut-être de Valence, qui viennent peut-être de Lyon, qui viennent en vacances ici. Donc on va avoir des vacanciers et des gens locaux. Donc du coup, on est vraiment sur une offre où on essaye de toucher tous ces publics-là et on fait des choses à la fois en semaine, à la fois les mercredis où on va pouvoir toucher un petit peu des scolaires qui vont pouvoir monter et puis les samedis aussi où les locaux vont pouvoir monter, même en hors période de vacances scolaires. Les vacances scolaires pour notre zone sont assez tard cette année et du coup, on n'est pas du tout sûr qu'on aura de la neige. Peut-être qu'il y en aura plus en fait qu'au mois de janvier, on n'en sait rien. Et du coup, on essaye vraiment, ça c'est quelque chose où un maître mot de notre métier, on essaie de s'adapter. Là, il neige, c'est super, on peut monter, on peut aller faire des choses. Demain, il neige pas, peut-être qu'on sortira après-demain, etc., etc.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du DIWA.
107.5,
101.7.
FM.
Il y a la beauté du paysage aussi qui motive certainement ces randonnées. Et pour vous, il s'agit peut-être de trouver les meilleurs points de vue?
Oui, bien sûr. On a la chance, alors nous on est situé à Die ici, on est au pied des falaises sud du Vercors. Donc on a des espaces naturels qui sont magnifiques. Donc on peut monter sur Fond d'Urle, le col de Rousset, le vallon de Combeau. Voilà, là, vous avez des magnifiques parcours de crête où on a une vue panoramique sur tous les hauts plateaux du Vercors. On peut voir aussi toute la barrière est du Vercors, le Grand Vémont. Voilà, on a vraiment la chance d'être dans des espaces sur lesquels on peut jongler en fonction du groupe que l'on va avoir, du niveau du groupe, en fonction de la météo, en fonction de l'enneigement qu'on va avoir. On va choisir des lieux différents qui vont s'adapter aux conditions, mais on aura toujours des paysages qui sont aussi magnifiques.
C'est presque trop facile dans notre métier ici, c'est que où qu'on aille, on est vraiment sur des territoires qui sont très beaux, et que ça soit en altitude, que ça soit sur des crêtes, que ça soit dans la forêt, on a toujours plein d'endroits qui permettent justement d'amener les gens à s'émerveiller. Ça, c'est... On parlait de la formation des accompagnateurs tout à l'heure, ça fait pas partie de notre cursus de formation, mais ça fait vraiment partie de notre ADN, de notre façon de travailler. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'amener des gens, entre guillemets, de la ville, ou en tout cas de la vallée, d'en bas, de les amener en altitude, et on le voit bien, que ça soit sur une trace d'animaux, que ça soit sur tout d'un coup la barrière du Grand Vémont qui est toute enneigée, les gens ils font « waouh ». Et ça c'est vraiment notre joie à nous et notre ambition de faire s'émerveiller les gens, quoi. Les enfants comme les adultes, quoi.
Il y a l'aspect de la qualité de l'air, j'imagine aussi. Ça, physiquement, vous vous portez bien avec cette activité, loin de la pollution.
Globalement, ici, à Die, on est quand même chanceux. Alors, on est chanceux pour les paysages, mais on est aussi chanceux de ce qu'on est, dans une vallée qui est quand même beaucoup protégée. Alors, on n'a pas d'industrie polluante, on n'a pas beaucoup de circulation, donc on est chanceux. Et je pense qu'on en est relativement conscient de ça. Après, effectivement, les gens, ils vont venir. Une partie de nos clients sont des gens qui habitent à Valence, qui habitent encore une fois peut-être à Paris, hein, qui vont venir passer une semaine de vacances, profiter un petit peu de cette ambiance qui n'est pas de leur milieu urbain dans lequel ils vivent, mais surtout. Qui est très différent des grandes stations de ski. Hein. On a les Val d'Isère, on a les Tignes, on a toutes ces grosses stations, alors qui sont avec des paysages fabuleux aussi, hein, y a aucun doute là-dessus, mais qui vont être dans une espèce d'ambiance qui ressemble plus à une ambiance urbaine, où ça bouge dans tous les sens, il y a plein de gens, il y a de la musique, il y a du bruit. Ici, on a la chance. On est dans un environnement qui est calme, on est dans un environnement qui est nature, qui est un peu sauvage. Et dès qu'on sort, alors même quand on sort de Die, hein, et en particulier si on monte là-haut sur le Vercors, sur les hauts plateaux, on va se retrouver dans un endroit où on est tout seul. Et ça, cette possibilité qu'on offre à des citadins qui vivent dans des milieux où il y a beaucoup de monde, de leur offrir cette expérience finalement d'isolement, de silence, ça c'est quelque chose où là aussi... On n'entend pas le « waouh », mais tout d'un coup, on entend le silence. C'est quelque chose d'assez chouette, ça.
Vous parliez de propositions auprès des scolaires, parfois. Donc, vous avez quelques notions de pédagogie aussi à partager. Et est-ce qu'il y a aussi cet aspect envers le public, en général ? Est-ce qu'ils sont friands d'apprendre aussi ce qui existe sur ce plateau ?
Notamment, il y a le département de la Drôme qui a mis en place une opération un peu particulière qui s'appelle tous les sixièmes à la montagne. Donc le département de la Drôme est gestionnaire de différents lieux de montagne. Donc on a Fondurle, on a le col du Rousset, on a Val-Drôme, alors plus pour la période hivernale. Et il a mis en place cette opération tous les sixièmes à la montagne, justement pour favoriser le fait que tous les élèves de 6e qui sont dans un collège de la Drôme peuvent se retrouver sur une sortie à la journée. Alors, il peut y en avoir en été. Nous, on s'occupe de la partie hivernale où, du coup, on a des scolaires qui viennent de Saint-Paul-Trois-Châteaux, de Romans-sur-Isère, et qui viennent passer une journée à la montagne. Et ces gamins-là, alors je le dis avec beaucoup d'affection, hein, qui débarquent de la ville... là aussi, ils sont avec un grand sourire, ils vont s'extasier dans la neige. Nous, ce qu'on essaye, c'est que cette journée d'émerveillement, ça ne soit pas qu'une journée ludique. Alors, on a une dimension ludique, c'est évident, mais on essaye aussi de, pas forcément de faire passer des messages, mais en tout cas de les faire un petit peu grandir, de les sensibiliser un tout petit peu, de leur faire comprendre, de leur faire prendre conscience de la beauté et du côté extraordinaire des endroits dans lesquels ils sont. Donc ça, c'est notre pédagogie. On est plus sur ces aspects-là, des aspects du vivant, que sur juste un cours sur là, on va faire l'écologie de la montagne, les étages alpins, etc., etc. Donc, je suis pas sûr qu'il soit... ça soit indispensable de leur bourrer le crâne avec plein de choses, et plutôt de leur bourrer le crâne avec plein de sensations et d'émerveillement, et les yeux écarquillés et les oreilles toutes frémissantes, quoi.
Une école de sens. Ouais. Claire Lecoute, vous-même, vous pourriez me parler aussi de cette formation dont vous avez acquis pour être accompagnateur. Quels sont les abords qui sont traités dans cette formation? J'imagine qu'il y a la notion de sécurité, il y a peut-être aussi la topographie, connaître les cartes, la géographie, donc la nature également. Quels sont tous les aspects sur lesquels vous êtes formé?
Oui, alors en effet, c'est une formation assez complète. Donc, comme le disait Vincent tout à l'heure, ça peut prendre plus ou moins de temps selon les personnes pour faire la formation. Ça peut aller de 2 à 5 ans. Donc, on est formé en effet à la gestion de groupe, à encadrer un groupe en sécurité, savoir aussi gérer toute la notion de secours s'il se passe quelque chose en montagne. Et après, il y a tout ce qui est les connaissances, comme on disait, naturalistes, donc autour de la faune, la flore, l'écologie, la géologie. Et puis, après, on a une formation plus spécifique sur des volets qui peuvent être un peu plus sportifs, sur aussi la notion d'entraînement. On peut être habilité à encadrer en trail, donc pour certaines personnes. Après, tout le monde ne fait pas ce choix-là, mais tout ce qu'on a appris pendant notre formation, nous, on a essayé d'en faire une sortie là, pour cet hiver qui s'appelle « J'apprivoise la montagne hivernale », donc où là, on essaie de faire comprendre comment gérer une sortie en hiver, et donc apprendre à gérer les notions de froid, apprendre à s'équiper, parce que quand on marche en montagne, on peut avoir très vite chaud, donc apprendre à avoir plusieurs couches de vêtements, avoir le bon équipement, les bonnes chaussures, en fonction de l'activité qu'on va faire. Et puis, toute la notion d'orientation, évidemment, qui est très, très importante dans notre formation, où on est là quand même pour guider nos clients et qui faire en sorte qu'ils ne se perdent pas en montagne. Donc, il y a un fort volet sur l'orientation qui est mis dans notre formation.
Et une passion vous anime tous au sein de cette équipe, c'est celle de la montagne. C'est celle qui vous a appelé très tôt à cette activité, ou vous êtes né dans cette montagne et vous avez souhaité y rester?
Alors, il y a plein de choses dans ta question. Déjà, c'est rigolo, enfin c'est rigolo ou pas d'ailleurs, l'équipe de Vercoeur Escapade, on vient tous d'environnements et de lieux différents. C'est... On en a qui viennent de la région parisienne, d'autres qui viennent de Lorraine, d'autres qui viennent de Normandie, du fin fond du Cantal. Il y en a assez peu finalement qui sont originaires vraiment natifs du Diwa ou du Vercors. Mais justement, ce qui montre cette force de notre territoire, qui est une vraie terre d'accueil et qui est attirante. Après, il y en a qui sont nés quand même à la montagne, qui sont tombés dans la marmite quand ils étaient petits, hein, comme Obélix. Il y en a d'autres pour lesquels c'est venu plus tard, hein, comme on disait tout à l'heure sur la formation. Souvent, le métier d'accompagnateur est un deuxième métier, où, après avoir fait d'autres choses. C'est un métier qui est beaucoup sur l'humain, même s'il y a beaucoup de compétences techniques. Et cet humain-là, il est souvent le fruit d'un travail ou d'un cheminement personnel, de dire, moi, j'ai envie d'emmener des gens. Et ça, c'est pas neutre du tout. Et après, au-delà de cette envie qui nous anime tous, vraiment ce qui fait notre communauté au sein de Vercoeur Escapade, mais même au sein des accompagnateurs en montagne de façon globale, on va tous avoir des aspects particuliers, des choses qui nous animent plus. Il y en a un qui va avoir envie de raconter des histoires, qui va être spécialisé dans les contes. On va en avoir un autre qui s'émerveille sur les insectes, par exemple, et qui va être capable d'avoir plein d'histoires à raconter sur le petit insecte qu'on va croiser au cours d'une randonnée. Donc on a, moi par exemple, une de mes spécificités, ou un truc qui m'anime et que, sur lequel je m'extasie en permanence, c'est le froid. On a parlé tout à l'heure du réchauffement climatique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le froid. Et c'est le fait que, justement, on sorte dehors, où en général, il fait plus froid qu'ici. Donc, on est en hiver et on est dans des bureaux ou dans des maisons qui sont très chauffées. Et puis, on va sortir et on va rencontrer le froid, qui est une façon de rencontrer la nature, finalement. De temps en temps, c'est un petit peu trop froid. Donc, il faut se protéger, il faut apprendre à gérer le froid. Mais du coup, on est sur quelque chose qui vient se rappeler à nous. On n'est pas juste devant une télé avec des beaux paysages, on n'est pas juste dans une salle de classe à apprendre plein de choses, on est aussi en train d'expérimenter quelque chose. On va monter un petit peu la montagne, puis d'un coup, il fait chaud parce qu'on fait un effort. Et puis tout d'un coup, on arrive en haut du col, et là, il y a un petit peu de vent, mince, il fait froid. Et de cette expérience, de cette sensation, ça, c'est quelque chose, moi, qui me plaît particulièrement et sur lequel j'amène certains groupes à faire ça, où on fait ce qu'on appelle du yoga du froid, donc enfin qui est un exercice de yoga, hein, quelque chose de très intérieur en termes de démarche, mais où on va aller s'exposer au froid de façon volontaire. On ne va pas chercher à le fuir, justement.
Vous indiquez aussi consulter le site internet, cela permet de connaître l'équipe et ça peut aussi répondre à des demandes spécifiques. On peut peut-être parler de challenges personnels, par exemple.
On est toujours dans une démarche où en fait on va emmener des gens qui sont pas à la montagne, c'est-à-dire que c'est des gens soit qui habitent à Dix, soit qui habitent en ville, dont c'est pas le métier, et on va les amener ailleurs que là où ils ont l'habitude d'aller. Donc même pour les scolaires, même pour la famille tranquille, plan-plan, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire de quelque chose qui n'est pas leur quotidien. Alors, ils n'en ont pas tous conscience, il y en a certains pour lesquels ça fait un peu peur, et c'est la sortie notamment dont parlait Claire, c'est-à-dire de dire « moi j'ai peur d'aller à la montagne en hiver, j'ai peur d'avoir froid, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela ». On va leur apprendre à, non pas à sortir de leur zone de confort, comme on entend souvent, mais à se rendre compte que leur zone de confort, elle est bien plus grande que ce qu'ils imaginaient. C'est-à-dire qu'ils ont un peu peur d'avoir froid, donc ils s'emmitouflent. Puis finalement, on leur dit « Attends, vas-y, enlève ton anorak, enlève ton bonnet. Tu vois, t'es pas mort de froid, c'est pas inconfortable. » Donc d'aller expérimenter ça, c'est des choses qui sont chouettes. Et c'est tout le temps notre quotidien de sortir les gens de leurs habitudes. Alors il y en a qui viennent effectivement, comme tu dis, pour se challenger, en mode « Allez, on est des warriors, on va aller se battre ». C'est pas forcément la majorité des gens, mais ils sont tous, quand même, consciemment ou pas, en train de rechercher quelque chose. Ils recherchent cet émerveillement, soit l'émerveillement parce qu'il y a un beau paysage, soit l'émerveillement parce que tout d'un coup, ils font un effort physique qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. On est quand même dans des sociétés sédentaires où on ne bouge pas beaucoup, et là, tout d'un coup, on fait un effort, et on se rend compte qu'on est capable, et on transpire, et ça fait du bien. Ou alors de s'émerveiller parce que, waouh, on arrive sur des choses qu'on ne connaît pas du tout. C'est-à-dire que tout d'un coup, on voit un lièvre variable qui traverse le champ devant nous, qui est tout blanc, qui est quasiment invisible sur la neige blanche. Et waouh, tout d'un coup, ça vient nous surprendre dans notre quotidien. Et ça, c'est chouette. Donc, il y a tout le temps cette dimension de décalage par rapport au quotidien, quoi.
Pour en savoir plus, vous pouvez nous indiquer l'adresse du site internet.
accompagnateur-drôme-vercors.fr, accompagnateur avec un S.
Claire Lecouteux et Vincent N, je vous remercie tous deux d'être venus sur RDUA pour nous parler de la saison 2025 de Vercors Escapade. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci Yves, à très bientôt, on reviendra vous voir au printemps. À bientôt, au revoir.